RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 9,5-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, vous pouvez également écouter la rubrique L'histoire d'aujourd'hui et Mon Indonésie. La rubrique suivante, comme tous les jours, Magazine culturel et l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, comme d'habitude, vous allez écouter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. Le gouvernement indonésien s'est engagé à atteindre son objectif de foresterie sociale. L'Indonésie continue de recueillir l'appui de sa candidature au conseil de scrutin de l'ONU. Le remaniement du cabinet ne perturbe pas les relations indonésiennes britanniques. L'Indonésie et l'Inde discutent de la sécurité des deux pays. L'Indonésie encourage l'établissement d'un traité d'extradition à l'ASEAN. Et enfin, le Sénégal a le projet de commander les avions CN235. Voici le journal complet. Justicia Rahman, coordinatrice du programme de mise à jour juridique à la base communautaire et écologique, ou HUMA, a déclaré que les incendies de forêt et de la terre, y compris les tourbières, contribuent de manière significative aux émissions de gaz à effet de serre. Le gouvernement s'est engagé à atténuer le secteur des forêts et des tourbières. Dans une conférence de presse tenue mardi le 9 janvier à Jakarta, il a expliqué près de 60% des émissions de gaz à effet de serre en 2000 provenaient des incendies de forêt et de la tourbe. En 2012, la contribution de gaz à effet de serre a commencé à diminuer, bien qu'elle reste la plus importante. En réponse à la question, selon Justicia, le gouvernement a un engagement ambitieux à faire face aux incendies de forêt et des tourbières.
Pemerintah membuat sebuah komitmen yang sangat luar biasa untuk memitigasi ini. Salah satunya dengan
le gouvernement s'est énormément engagé à cette atténuation. L'un d'entre eux est d'empêcher les incendies et de faire la restauration de la tourbe. Le gouvernement s'est engagé que les efforts d'atténuation du secteur forestier et de la tourbe était faite en encourageant par une gestion durable avec la communauté ou foresterie sociale. Justicia a expliqué que le gouvernement a la cible de la forêt sociale de 12,7 millions d'hectares. Néanmoins, jusqu'en 2017, il y avait de nombreux défis pour atteindre de tels objectifs, comme les difficultés d'octroi de licences et les sites de foresterie sociale qui sont loin des établissements communautaires. Selon Justicia, en facilitant l'accès du public au permis de foresterie sociale, améliorer l'économie de la communauté est l'objectif du gouvernement de restaurer les tourbières. Le ministère indonésien des Affaires étrangères en 2018 était actif de recueillir le soutien des pays membres de l'ONU. Pour être élu en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU ou CSNU, de la période 2019-2020. Le porte-parole du ministère indonésien des Affaires étrangères, Armanata Nasir, après la conférence de presse ministérielle annuelle, ki aulio magdi lenef yang vie obati mang nusantara du ministère des affaires étrangères à Jakarta a déclaré qu'un événement membre non permanent du conseil des scrutins des Nations Unies pour la période 2019-2020, l'Indonésie a de plus grandes opportunités de donner des idées et des contributions dans le maintien de la paix mondiale. Pendant ce temps, le grand programme d'Indonésie, s'il est élu membre non permanent de la période 2019-2020 du Conseil des scrutins des Nations Unies, est axé sur la paix, la sécurité et la prospérité.
Apabila diperlukan mengambil langkah-langkah tertentu apabila adanya suatu...
Si nous devons prendre certaines mesures, s'il y a un problème lié à la sécurité dans différentes parties du monde, la voie d'Indonésie sera plus entendue, c'est-à-dire nous pouvons transmettre plus facilement en transmettant nos points de vue. En substance, notre contribution sera plus grande dans le maintien de la paix et de la stabilité. Pendant ce temps, en 2018, le ministre a également souligné les réalisations accomplies par l'Indonésie tout au long de l'année 2017 par le ministère indonésien des Affaires étrangères. Dans le secteur humanitaire, l'Indonésie est incluse dans un pays qui soutient la réalisation de l'indépendance palestinienne et soutient la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui a rejeté la décision des États-Unis qui ont proclamé Jérusalem comme capitale d'Israël à la fin décembre 2017. Puis, dans le secteur de la protection des citoyens indonésiens, tout au long de l'année 2017, 9 894 cas ont été réglés et 14 cas ont abouti à la libération de la peine de mort à l'étranger et le paiement de 120 milliards roupiah de droits des travailleurs migrants indonésiens à l'étranger par les employeurs. Le gouvernement indonésien est prêt à coopérer avec le gouvernement britannique, en particulier dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale dans divers domaines prioritaires, ce qui est bénéfique pour les intérêts de l'Indonésie. Cela a été dit par le conseiller de la fonction politique de l'ambassade d'Indonésie à Londres. Selon Andalusia Tribuana Tungadewi, les représentants indonésiens à Londres suivent le processus de remaniement du cabinet britannique qui est encore en cours. Ce que le premier ministre Theresa May a fait était les affaires domestiques du Royaume-Uni. Quel que soit le résultat, l'Indonésie est prête à coopérer avec le gouvernement britannique, notamment dans le contexte du renforcement de la coopération bilatérale dans divers domaines prioritaires, ce qui est bénéfique pour les intérêts nationaux de l'Indonésie. Le ministre de coordination des politiques, des affaires juridiques et des scrutins, Wiranto, a déclaré que la première réunion entre l'Indonésie et l'Inde sur la question de la sécurité, intitulée « Dialogue de sécurité Indonésie-Inde » à New Delhi, l'Inde, mardi, pour discuter de l'amélioration de la coopération dans le domaine du droit et de la sécurité dans les deux pays. Wiranto a déclaré à Jakarta mercredi que la réunion était la continuation des accords entre l'Indonésie et l'Inde pour renforcer la coopération entre les deux pays. Le dialogue de sécurité Indonésie-Inde et la réalisation de la visite du président Joko Widodo à l'Inde le 11 décembre 2017. En outre, il est la mise en œuvre des résultats de la réunion du groupe de personnalités éminentes Inde-Indonésie à New Delhi en décembre 2016, contenue sous forme de déclaration de vision 2025. Le premier dialogue de sécurité Indonésie-Inde est la réunion ministérielle dans le domaine du droit et de la sécurité de l'Indonésie et de l'Inde qui a discuté du renforcement de la coopération entre les deux pays. On souhaite que le résultat de la réunion puisse soutenir la mise en œuvre de la coopération entre les deux pays dans le domaine du droit et de la sécurité. Le gouvernement indonésien encouragera la formation des instruments du traité d'extradition pour l'ASEAN. Le directeur de la coopération du ministère des Affaires étrangères de l'ASEAN, José Tavares, à Jakarta, a déclaré mercredi que le gouvernement indonésien dévalué avec l'augmentation de la criminalité transfrontalière en Asie du Sud, il veut une forte coopération juridique entre les pays de l'ASEAN, y compris la coopération d'extradition. Selon José Tavares, l'Indonésie encouragera la discussion de la formation du traité d'extradition à la réunion ministérielle de l'ASEAN cette année. Mais la formation du traité d'extradition est un grand travail en ASEAN. À cette fin, selon José Tavares, La Direction générale de la coopération de l'ASEAN et la Direction générale du droit et des accords internationaux du ministère des Affaires étrangères doivent coopérer avec le ministère de la Justice et des droits de l'homme pour encourager la création du traité d'extradition de l'ASEAN. Le traité d'extradition de l'ASEAN pour aider l'application de la loi dans chaque pays membre de l'ASEAN. Le Sénégal a le projet de commander à nouveau des avions CN-235 fabriqués par PT Dirgantara Indonesia parce qu'ils sont considérés comme ayant une garantie de qualité et la garantie après-vente après que le pays a été satisfait en utilisant les avions de commande précédentes. L'ambassade indonésie à Dakar, Dimas Prihadi, a déclaré mardi à Antara Londres à Jakarta son intérêt de commander à nouveau le CN-235 transmis par le président sénégalais Macky Sall lors de sa rencontre avec l'ambassadeur indonésie à Dakar, Mansour Pangeran, en marge de la réunion annuelle du palais présidentiel du Sénégal le week-end dernier. Si la commande de l'avion est réalisée, ce sera le quatrième avion acheté par le gouvernement du Sénégal à l'Indonésie. Après le président 2017, le pays a signé un contrat d'achat d'avion CN-235. La signature du contrat a été assistée par le ministre indonésien de la Défense, Ria Mizat Riakudu. En plus de l'avion, l'ambassadeur Mansour Pangeran a demandé au président Macky Sall d'encourager le suivi des plans de l'achat de wagons de chemin de fer de PT Inka et de navires à des fins commerciales et militaires de PT PAL Indonesia qui a été étudié par le Sénégal depuis 2017. Pendant ce temps, le président Macky Sall a déclaré que son gouvernement était satisfait de l'amélioration des relations bilatérales entre les deux pays. Il a affirmé avoir rencontré à plusieurs reprises avec le président Joko Widodo lors des réunions internationales, entre autres, dans le cadre du G20 et de l'OCI récemment. Serviteur, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Serviteur, voici donc le commentaire et pour le titre. L'Indonésie, centre d'information sur l'écosystème des tourbières tropicales. Sur la totalité des tourbières du monde atteignant 400 millions d'hectares en février 2016, la superficie des tourbières tropicales n'était que de 8%. De ce nombre, 60% sont en Asie du Sud-Est. Les tourbières tropicales sont les terres qui possèdent le type de tourbe le plus riche en carbone. Les avantages de la tourbe, qui est seulement 3% de la superficie totale du monde, capable de stocker 75% de carbone dans l'atmosphère. L'Indonésie est connue pour avoir la plus grande tourbière tropicale de 11,5 millions d'hectares, tandis que la Malaisie n'a que 7 millions d'hectares. En tant que pays possédant le plus grand écosystème de tourbières tropicales du monde, il est normal que l'Indonésie se présente comme le centre mondial des tourbières tropicales. L'expérience d'Indonésie au fil des années pour surmonter les incendies de forêt et de terre, restaurer et protéger la tourbe devrait être un pilier. Le Kalimantan central et Sumatra sont inclus dans les candidats proposés comme centre des tourbières tropicales car ils ont fait beaucoup de recherches, d'utilisation et tous sont liés au programme de gestion de la tourbe. La réponse internationale qui apprécie la performance d'Indonésie dans la protection, la gestion et la restauration des tourbières brûlées est l'une des raisons pour lesquelles l'Indonésie est visible d'être le centre mondial des tourbières tropicales. Agus Justianto, chef de l'agence de recherche, de développement et d'innovation du ministère de l'Environnement et des Forêts, a déclaré que son concept était toujours en cours de discussion. La gestion du centre des tourbières tropicales sera sous le ministère de l'Environnement et de la Foresterie et collaborera avec l'Agence de la restauration tourbière, ou BRG. Actuellement, BRG travaille sur la restauration de 2 millions d'hectares de terre dans cette province jusqu'en 2019. BRG a été créé pour gérer les tourbières et renforcer la réglementation de la tourbe par le biais de règlements gouvernementaux et ministériels après des cas des incendies de forêt en 2015. Selon le ministère de l'Environnement et des Forêts, ces efforts contribuent à diminuer significativement les points de feu. En 2015-2017, le nombre de points chauds a chuté drastiquement de près de 22 000 points à moins de 2 000 points. Ceci est devenu une histoire de succès indonésienne qui a été montrée dans un effort de devenir un centre des troupes tropicales. Selon le directeur de l'Agence de restauration de la troupe, Nazir Fouad, l'Indonésie construira un centre d'écosystème de troupes tropicales à Bogor, dans l'ouest de Java, qui sera un lieu de centres d'information. Alors que le laboratoire de la troupe est situé à Riau, Jambi et Kalimantan. Le centre de cet écosystème des troupes tropicales sera un lieu d'apprentissage pour les autres pays qui veulent connaître les tourbières tropicales et comment restaurer et soigner la troupe tropicale. M. Nazir a indiqué que l'Indonésie avait beaucoup de recherches sur le résultat de la recherche concernant les troupes devrait figurer au centre de l'écosystème des troupes tropicales. L'Indonésie ouvre également le potentiel économique du Marrakech qui est maintenant la humidité. Les potentiels sont entre autres à partir des bois d'origine des tourbières comme remplaçant de l'acacia, au potentiel du café de tourbe, du miel de forêt, du caoutchouc et de l'ananas. Les efforts réalisés par l'Indonésie n'ont certainement pas de sens si elle n'est pas soutenue par des activités similaires d'autres pays. Cependant, l'Indonésie n'est qu'une petite partie de la surface de cette terre si vaste. Tous les pays du monde ont la même responsabilité de prendre soin de la terre. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie. Sur les fréquences ondes courtes, 15 150, 9 525 et 11 785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 11 janvier 1962, une partie du sommet du mont Huascarán au Pérou du Nord s'est rompue. Huascarán ou Nevado Huascarán fait partie de l'Ouest Andes et la plus haute montagne au Pérou et la quatrième plus haute montagne en Amérique du Sud. La hauteur atteint 6 768 mètres. Le 11 janvier 1962, l'éruption du mont a fait environ 2000 personnes sont mortes. Le 11 janvier 1992, Tadli Ben Jadid a démissionné en tant que président de l'Algérie. Il est devenu président de l'Algérie le 9 février 1979. La situation économique continue à se détériorer, a fait le peuple algérien ne sont pas satisfaits du leadership Ben Jadid. En 1988, après les manifestations contre son gouvernement, Ben Jadid a fait la réforme, entre autres la liberté de la création de nouveaux partis. En 1989, la fondation du Front islamique du Salou, dans un court temps, ce parti a réussi à attirer beaucoup de membres et remporter une majorité dans les élections en 1991. Après la grande victoire du Parti du Front islamique du Salou, ou FIS, le président già di benedire a demissione. La demission à la demande de certains membres de son cabinet, notamment l'armée, qui ne veulent pas un parti islamique gouverner en Algérie. Le Parlement algérien alors a été dissous et les résultats des élections ont été annulés. Les manifestations massives ont frappé l'Algérie. Mohamed Boudiaf a établi l'autre Conseil d'État et a gouverné et exprimé Algérie dans la situation d'urgence. Le 11 janvier 1995, la chaîne de télévision privée de l'Indonésie, Indosiar, commence à émettre. Indosiar est l'une des stations de télévision privée nationale en Indonésie. La station opère à Jakarta Ouest. Indosiar commence à diffuser sous la forme d'émissions expérimentales en novembre 1994. Indosiar a officiellement été diffusé le 11 janvier 1995. Dans la mission, il met beaucoup l'accent sur la culture. L'un des programmes culturels qui a toujours été diffusé est le spectacle Wayang au week-end. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Indonésiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Bonsoir chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Mon Indonésie, intitulée Le ministère de l'Industrie et le programme des Nations Unies pour le développement au UNDP crée une politique pour gérer les déchets industriels. L'Agence de recherche et de développement industriel au BPPI du ministère de l'Industrie et le Programme des Nations Unies pour le développement au UNDP ont convenu de formuler des recommandations sur la politique de gestion des déchets industriels dans le pays. Le but de cette mesure est entre autres de réaliser des principes de l'industrie verte et le renforcement de la compétitivité et le développement d'une production nationale durable. Les deux institutions ont organisé un séminaire international intitulé « La gestion des déchets des industries électroniques et des déchets en tant que ressources industrielles pour soutenir la réduction de PBDE ou UPOP ». Le séminaire a été participé par 155 personnes, entre autres provenant du gouvernement, des universités et des hommes d'affaires. L'événement a eu lieu du 8 jusqu'à 9 janvier à Bali. Le séminaire a invité des conférenciers locaux et de l'Université nationale de Taïwan, le Centre de gestion de l'environnement de l'Indi et l'Institut de stratégie environnementale mondiale du Japon. Le chef de l'Agence de recherche et de développement industriel du BPPI, du ministère de l'Industrie, M. Ngakan Timur Antara, à Denpasar, Bali, a déclaré lundi que le séminaire avait pour but de dialoguer et de recueillir des idées d'apprentissage auprès de toutes les parties prenantes. Il existe une procédure fixe qui peut réduire ou éliminer l'utilisation des polluants organiques persistants, ou POP, dans les processus de production industrielle. Il a déclaré que l'un des produits chimiques dangereux répertoriés comme POP est prétendument encore utilisé en Indonésie et les polybromodipénylètre, ou PBDE, qui sont généralement utilisés comme retardateur de flamme dans le processus de production. Par conséquent, M. Ngakan Timur Antara demande aux fabricants tels que l'industrie de plastique du tekstil, du transport et d'électronique, d'utiliser des technologies de traitement des déchets standardisés. Si cela est bien appliqué en Indonésie, cela apportera un maximum d'avantages à la durabilité des ressources naturelles, à la préservation des fonctions environnementales et l'amélioration du bien-être des populations. Ces secteurs sont le soutien de la croissance de l'industrie nationale non pétrolière. Au troisième trimestre 2017, les industries des produits métalliques, des ordinateurs, des produits électroniques, de l'optique et des appareils électriques ont contribué de 10,46% et l'industrie de matériel de transport a contribué 10,11% au revenu national. Alors que l'industrie du textile, du transport, de l'électronique et de télématique sont des industries phares nationales qui ont été établies dans le plan directeur national de développement industriel en 2015 jusqu'à 2035. Ngakan Timur Antara a révélé que l'effort de collaboration du ministère de l'Industrie et UNDP était la forme de l'engagement de l'Indonésie à ratifier la Convention de Stockholm par la loi numéro 19 l'année 2009 sur la ratification de la Convention de Stockholm sur le polluant organique persistant et en vertu de la Convention de Stockholm, deux ingrédients ont été classés en tant que polluants organiques persistants très nocifs pour la santé humaine et l'environnement. Le ministère de l'Industrie encourage également l'industrie nationale à optimiser la gestion des déchets de manière appropriée, une méthode qui peut être faite est l'approche de gaspillage en énergie. Cette approche peut réduire des tasses de déchets, réduire l'utilisation de combustibles fossiles. Cela soutient l'engagement du gouvernement indonésien à réduire les émissions de gaz à effet de serre, conformément à la contribution indonésienne déterminée par l'Indonésie, soumise à l'accord de Paris 2016. Chers amis, c'était la rubrique Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Voici le jalan complet. Justicia Rahman, coordinatrice du programme de mise à jour juridique à la base communautaire et écologique, ou HUMA, a déclaré que les incendies de forêt et de la terre, y compris les tourbières, contribuent de manière significative aux émissions de gaz à effet de serre. Le gouvernement s'est engagé à atténuer le secteur des forêts et des tourbières. Dans une conférence de presse tenue mardi le 9 janvier à Jakarta, il a expliqué près de 60% des émissions de gaz à effet de serre en 2000 provenaient des incendies de forêt et de la tourbe. En 2012, la contribution de gaz à effet de serre a commencé à diminuer, bien qu'elle reste la plus importante. En réponse à la question, selon Justicia, le gouvernement a un engagement ambitieux à faire face aux incendies de forêt et des tourbières.
Pemerintah membuat sebuah komitmen yang sangat luar biasa untuk mitigasi ini.
Le gouvernement s'est énormément engagé à cette atténuation. L'un d'entre eux est d'empêcher les incendies et de faire la restauration de la tourbe. Le gouvernement s'est engagé que les efforts d'atténuation du secteur forestier et de la tourbe étaient faits en encourageant par une gestion durable avec la communauté ou foresterie sociale. Justicia a expliqué que le gouvernement a la cible de la forêt sociale de 12,7 millions d'hectares. Néanmoins, jusqu'en 2017, il y avait de nombreux défis pour atteindre de tels objectifs, comme les difficultés d'octroi de licences et les sites de foresterie sociale qui sont loin des établissements communautaires. Selon Justicia, en facilitant l'accès du public au permis de foresterie sociale, améliorer l'économie de la communauté est l'objectif du gouvernement de restaurer les tourbières. Le ministère indonésien des Affaires étrangères en 2018 était actif de recueillir le soutien des pays membres de l'ONU. Puk et ke elu ang tangke mamikonong pek manang dukong se deskute delono u CSNU dalam pakot 2019-2020. Lepot pakol du Minister Indonesia yang des Affaires étrangères ak Manata Nasir après la conférence de presse ministérielle annuelle qui a eu lieu mardi le 9 janvier au bâtiment Nusantara du Ministère des Affaires étrangères à Jakarta a déclaré quand l'événement membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2019-2020, l'Indonésie a de plus grandes opportunités de donner des idées et des contributions dans le maintien de la paix mondiale. Pendant ce temps, le grand programme d'Indonésie, s'il est élu membre non permanent de la période 2019-2020 du Conseil de sécurité des Nations Unies, est axé sur la paix, la sécurité et la prospérité.
Apabila diperlukan mengambil langkah-langkah tertentu apabila adanya suatu.
Si nous devons prendre certaines mesures s'il y a un problème lié à la sécurité dans différentes parties du monde. La voix d'Indonésie sera plus entendue, c'est-à-dire nous pouvons transmettre plus facilement en transmettant nos points de vue. En substance, notre contribution sera plus grande dans le maintien de la paix et de la stabilité. Pendant ce temps, en 2018, le ministre a également souligné les réalisations accomplies par l'Indonésie tout au long de l'année 2017 par le ministère indonésien des Affaires étrangères. Dans le secteur humanitaire, l'Indonésie est incluse dans un pays qui soutient la réalisation de l'indépendance palestinienne et soutient la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui a rejeté la décision des États-Unis qui ont proclamé Jérusalem comme capitale d'Israël à la fin décembre 2017. Puis, dans le secteur de la protection des citoyens indonésiens, tout au long de l'année 2017, 9894 cas ont été réglés et 14 cas ont abouti à la libération de la peine de mort à l'étranger et le paiement de 120 milliards rupiah de droits des travailleurs migrants indonésiens à l'étranger par les employeurs. Le gouvernement indonésien est prêt à coopérer avec le gouvernement britannique, en particulier dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale dans divers domaines prioritaires, ce qui est bénéfique pour les intérêts de l'Indonésie. Cela a été dit par le conseiller de la fonction politique de l'ambassade indonésienne à Londres, selon Andalusia Tribuana Tungadewi. Les représentants indonésiens à Londres suivent le processus de remaniement du cabinet britannique qui est encore en cours. Ce que le premier ministre Theresa May a fait était les affaires domestiques du Royaume-Uni. Quel que soit le résultat, l'Indonésie est prête à coopérer avec le gouvernement britannique, notamment dans le contexte du renforcement de la coopération bilatérale dans divers domaines prioritaires, ce qui est bénéfique pour les intérêts nationaux de l'Indonésie. Le ministre de coordination des politiques, des affaires juridiques et des sécurités, Wiranto, a déclaré que la première réunion entre l'Indonésie et l'Inde sur la question de la sécurité, intitulée « Dialogue de sécurité Indonésie-Inde 1 » à New Delhi, l'Inde, mardi, pour discuter de l'amélioration de la coopération dans le domaine du droit et de la sécurité dans les deux pays. Wiranto a déclaré à Jakarta mercredi que la réunion était la continuation des accords entre l'Indonésie et l'Inde pour renforcer la coopération entre les deux pays. Le dialogue de sécurité Indonésie-Inde 1 et la réalisation de la visite du président Joko Widodo à l'Inde le 11 décembre 2017. En outre, il est la mise en œuvre des résultats de la réunion du groupe de personnalités éminentes Inde-Indonésie à New Delhi en décembre 2016, contenue sous forme de déclaration de vision 2025. Le premier dialogue de sécurité Indonésie-Inde est la réunion ministérielle dans le domaine du droit et de la sécurité de l'Indonésie et de l'Inde qui a discuté du renforcement de la coopération entre les deux pays. On souhaite que le résultat de la réunion puisse soutenir la mise en œuvre de la coopération entre les deux pays dans le domaine du droit et de la sécurité. Le gouvernement indonésien encouragera la formation des instruments du traité d'extradition pour l'ASEAN. Le directeur de la coopération du ministère des Affaires étrangères de l'ASEAN, José Tavares, à Jakarta, a déclaré mercredi que le gouvernement indonésien dévalué avec l'augmentation de la criminalité transfrontalière en Asie du Sud, il vaut une forte coopération juridique entre les pays de l'ASEAN, y compris la coopération d'extradition. Selon José Tavares, l'Indonésie encouragera la discussion de la formation du traité d'extradition à la réunion ministérielle de l'ASEAN cette année. Mais la formation du traité d'extradition est un grand travail en ASEAN. À cette fin, selon José Tavares, la Direction générale de la coopération de l'ASEAN et la Direction générale du droit et des accords internationaux du ministère des Affaires étrangères doivent coopérer avec le ministère de la Justice et des droits de l'homme pour encourager la création du traité d'extradition de l'ASEAN. Le traité d'extradition de l'ASEAN pour aider l'application de la loi dans chaque pays membre de l'ASEAN. Le Sénégal a le projet de commander à nouveau des avions CN-235 fabriqués par PT Dirgantara Indonesia parce qu'ils sont considérés comme ayant une garantie de qualité et la garantie après-vente après que le pays a été satisfait en utilisant les avions de commande précédentes. L'ambassade d'Indonésie à Dakar, Dimas Prihadi, a déclaré mardi à Antara Londres à Jakarta son intérêt de commander à nouveau le CN-235 transmis par le président sénégalais Macky Sall lors de sa rencontre avec l'ambassadeur d'Indonésie à Dakar, Mansour Pangeran, en marge de la réunion annuelle du palais présidentiel du Sénégal le week-end dernier. Si la commande de l'avion est réalisée, ce sera le quatrième avion acheté par le gouvernement du Sénégal à l'Indonésie. Après le président 2017, le pays a signé un contrat d'achat d'avion CN-235. La signature du contrat est assistée par le ministre indonésien de la Défense, Ria Mizar Triakudu. En plus de l'avion, l'ambassadeur Mansour Pangeran a demandé au président Macky Sall d'encourager le suivi des plans de l'achat de wagons de chemin de fer de PT Inka et de navires à des fins commerciales et militaires de PT PAL Indonesia qui a été étudié par le Sénégal depuis 2017. Pendant ce temps, le président Macky Sall a déclaré que son gouvernement était satisfait de l'amélioration des relations bilatérales entre les deux pays. Il a affirmé avoir rencontré à plusieurs reprises avec le président Joko Widodo lors des réunions internationales, entre autres, dans le cadre du G20 et de l'OCI récemment. Serviteur, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. On se retrouve dans la rubrique Magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous invitons à voyager à la ville de Semarang, Java Central. Voyager à Semarang, la capitale de la province de Java Central, visiter une destination touristique qui est bien connue actuellement sur les médias sociaux, même dans le monde. C'est Kampung Pelangi. Il est situé dans le village de Randusari, la ville de Semarang. Les maisons dans ce village sont peintes en coloré. Il n'est pas le premier village de peinture colorée en Indonésie, parce que dans certains nombres de régions telles que Malang, Balikpapan et Lubuk Linggau ont également un concept de village thématique similaire. Autrefois, le nom de ce village est Kampung Wonosari. il est un bidonville donc organisé avec des tasses de plantes sauvages et des murs de briques rouges non pavées. Il se trouve au bord de Kali Semarang qui se compose d'environ 325 maisons. Mais alors il a été changé et a également changé son nom, c'est Kampung Pelangi. Ou en français, le village de l'art en ciel. Le changement de ce village a commencé à l'amélioration du marché Bunga Kalisari, situé juste en face du village. Après l'achèvement de l'amélioration du marché, sa beauté n'est pas soutenue par la situation du village de Wonosari. Par conséquent, enfin, le gouvernement de la ville de Semarang fait également la rénovation du village. Avec l'amélioration du village, l'économie populaire devrait également augmenter. Si vous visitez le village de Pelangi, préparez-vous les appareils de photo. Il y a beaucoup de spots photo intéressants et Instagram. Lorsque vous prenez des photos, vous pouvez également utiliser les accessoires sous la forme d'écriture, des chapeaux, des bandeaux et aussi des fleurs louées par les résidents locaux. Vous pouvez faire en promenade tout en prenant des photos dans cette zone touristique. Vous pouvez également visiter le spot photo nommé Cadenas Amor. Et n'oubliez pas de goûter les spécialités culinaires, telles que les sandwichs colorés ou bien les mambo colorés. Il y a quelque temps, le gouvernement de la ville de Semarang a également équipé Kampung Pelangi ou le village de Pelangi d'un stand de vous et d'installations culinaires pour ajouter au confort et l'intérêt des touristes visitant ce village thématique. Les vous et installations culinaires sont construites sur la gauche du marché aux fleurs de Kalisari. Le stand de vous sont au deuxième étage du bâtiment et sont équipés de tables, de chaises et aussi d'un endroit très approprié pour prendre des photos. Il devient plus unique parce qu'il est nommé Taman Kasmaran ou en français le Parc d'Amour. Kasmaran est abréviation de Kali Semarang parce qu'il est situé sur Kali Semarang ou la rivière de Semarang. Chers amis, vous avez écouté tout à l'heure magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci à tous et à bientôt.
La Voix de l'Indonésie depuis Jakarta dans la rubrique Bahasaku comme le média pour préserver la diversité des langues régionales en Indonésie.
Bonsoir, chers amis. Merci d'être fidèles à la voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Bahasaku ou Malangue, comme média de préserver la diversité des langues locales en Indonésie. Chers amis, nous nous rencontrons de nouveau dans le programme Malangue et aujourd'hui, nous invitons à visiter la ville de Jayapura en province de Papouasie afin de connaître plus loin sur la langue de Tobati. La langue Tobati est la langue maternelle de Jayapura, notamment dans les districts Jayapura Sud, Abepura et Muara Tami. Les locuteurs au district Jayapura Sud sont dispersés dans les régions Hamadi, Entrop et Tobati. Les locuteurs au district Abepura se trouvent à Tanah Hitam, Kota Raja, Abe Pantai et Engros. Alors qu'au district Muara Tami, les locuteurs de la langue Tobati sont dispersés à Holtekam et Koya. De toutes les régions à la ville de Jayapura, la majorité des locuteurs de la langue Tobati se trouvent au village de Tobati, en village Engros. La langue Tobati au village de Tobati et au village Engros est similaire. La différence de la langue Tobati n'existe que dans les mots père et mère. Les mots père et mère au village Tobati sont Ayi et Ani, tandis qu'au village Engros est Ase et Ame. Ainsi, les villageois Tobati et Engros n'ont aucun problème à se comprendre. En Papouasie, la langue Tobati en tant que langue régionale a certaines fonctions. La première fonction est comme un moyen de communication dans l'environnement familial et les groupes communautaires, notamment les communautés Tobati et Engros. La deuxième fonction est comme une langue sociale tous les jours. La troisième fonction de la langue Tobati est la langue culturelle, c'est-à-dire la langue Tobati est utilisé dans des événements culturels tels que le paiement de la dot, la danse traditionnelle, la lamentation de la mort et d'autres. La quatrième fonction est le symbole d'identité de la société Tobati et Engros. La cinquième fonction est la langue d'introduction de l'événement officiel tel que l'inauguration de Ondoafi, ou chef de la tribu, et l'inauguration de l'église. Et voici quelques exemples des mots en langue Tobati: Sragosik en français, homme; Moni en français, femme; Ayi en français, père; Ani en français, mère; Sesek en français, frère plus jeune; Grok en français, sœur plus jeune; Aga, frère ou bien sœur. Il y a quelques exemples de phrases en langue tobati. Nous aïnore kotat. En français, je coupe l'arbre. Ntrika wahre retar. En français, ils font des bateaux.
La voix de l'Indonésie depuis Jakarta dans la rubrique Bahasaku comme le média pour préserver la diversité des langues régionales en Indonésie.
Chers amis, c'était le programme Bahasaku ou Malangue comme média de préserver la diversité des langues locales en Indonésie. Merci à tous et à la semaine prochaine.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Secrétaire, bonsoir. Voici le magazine musical qui s'agit des chansons d'andoute traditionnelles et pop. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons des chansons nostalgiques chantées par le groupe musical indonésien Deloitte. Pour ouvrir notre rencontre, voici sa chanson intitulée « Point des tâches ». Bonne écoute.
Jangan ditangisi di kisah yang lalu sudah sudahlah ini terjadi, jangan disesalkan lagi.
Serditor, vous venez d'écouter la chanson du groupe musical de Loïd, intitulée Point d'étage. Les membres de ce groupe musical sont Bart van Houten comme guitariste, André Gultom comme saxophoniste, flûtiste et chanteur, Shamsuar Hashim comme chanteur, Khairul Daoud comme batterie, Budiman Pulungan, claviériste, et Sangkan Panggabean, bassiste. Au fil du temps, Deloitte a les nouveaux membres, à savoir Justian, le deuxième guitariste, Johanne Fatma Rida Susilo, flûtiste et saxophoniste, et Toto comme bassiste. Deloitte est connu par les amateurs indonésiens après avoir sorti son premier album avec le single Titik Noda en 1972. Bon, serviteur, avant de connaître mieux le groupe musical Deloitte, voici donc la chanson suivante de Loïd intitulée Quelle est mon horreur et mon péché. Bonne écoute.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Vous avez écouté tout à l'heure des chansons indonésiennes. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voiindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. informing, connecting, dignifying.